Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, mes bien chers frères, que nous touchons au terme d'une étape liturgique importante qui fait la même durée, vous l'aurez remarqué, ou peut-être pas parce que ça passe plus vite, que le carême, 40 jours. Voilà que le Seigneur Jésus, nous venons de le signifier en éteignant ce cierge pascal, le Seigneur Jésus est monté à la droite de son Père. Ce mystère incroyable de l'ascension a dû, il faut bien le reconnaître, en nous mettant à la place des apôtres, a dû être très cruellement ressenti par les apôtres. Voilà que le Seigneur ne s'est pas contenté de les quitter une seule fois, en mourant sur la croix, ce qui déjà les a éprouvés, et comment, jusqu'à pousser certains à le renier, et à désespérer, tout simplement. Mais voilà qu'il, après 40 jours d'apparition, de réconfort qu'il leur apporte, et d'enseignement sur la mission qui sera la leur, voilà qu'une deuxième fois, il leur impose ce deuil, cette séparation, et celle-ci définitive. On peut se demander ce qui commande parfois à la logique du Seigneur Jésus. Il sait de quelles pattes nous sommes faits, il sait que faibles nous sommes, que nous avons des mains pour toucher, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, que nous avons besoin de prendre dans nos bras, de saisir, d'éprouver, et pourtant, c'est comme s'il agissait aux antipodes de notre nature charnelle. Il impose à ses apôtres cette ascension. Pourquoi ? On s'en doute bien, pour leur plus grand bien. Il n'y a chez Jésus aucune méchanceté, bien sûr, au contraire, une profonde pédagogie. Il y a dans l'ascension toutes sortes d'avantages. Je n'en relèverai que deux. Le premier avantage, c'est que de cette deuxième séparation, cette deuxième séparation rend possible l'apostolat des apôtres. C'est ce qui apparaît très clairement dans le récit de l'évangile d'aujourd'hui. On nous parle de l'ascension du Christ et on nous parle immédiatement de cette mission incroyable aux quatre coins du globe qu'envisagent les apôtres et que mènent les apôtres à leur terme. C'est-à-dire que si le Seigneur Jésus s'était tenu avec eux jusqu'à leur mort, s'il avait assuré toujours cette présence charnelle, sans aucun doute, les apôtres se seraient tenus avec lui dans un petit cénacle d'amis, pépères, si j'ose dire, un petit peu comme sur le mont Tabor, où Saint-Pierre propose au Seigneur de dresser trois tentes, parce que, ma foi, on est bien là. Il y a Jésus, il y a Moïse, il y a Élie, ne bougeons pas trop, ne descendons pas trop vite dans la vallée, restons là, nous sommes bien, jouissons ensemble comme des amis autour d'une table. Voyez, sans aucun doute, les apôtres se seraient-ils contentés de rester en petit aréopage autour du Seigneur Jésus, en buvant telle Sainte Marie-Madeleine les paroles du Maître, au lieu d'aller un peu comme Marthe, annoncer l'Évangile et se faire crucifier pour certains, se faire pendre ou égorger pour d'autres. Le Seigneur Jésus le sait, il faut sevrer ses apôtres de ces consolations humaines pour leur apprendre un nouveau mode de présence et surtout pour leur permettre d'aller aux quatre coins du globe sans regretter de laisser le Seigneur Jésus en un endroit de Galilée. C'est, je crois, le premier avantage de l'ascension, permettre aux apôtres, sevrés de cette présence trop charnelle, d'aller annoncer l'Évangile. Avouez que c'est quand même un avantage de taille. Il en va de même pour nous. Il faut que nous acceptions de quitter parfois nos chapelles qui nous sont agréables, de quitter nos petits oratoires, de quitter nos petits aréopages catholiques, tradis, où nous sommes bien, où il fait bon vivre, où nous sommes au chaud, parce que nous vénérons le même Seigneur, dans la même liturgie, pensez-vous en plus, où nous avons ce réconfort de nous soutenir mutuellement les uns les autres. Il faut accepter de quitter en quelque sorte cette présence du Seigneur Jésus, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, pour aller sortir à la haute mer et s'exposer à ce monde qui ne veut pas de Jésus, qui ne le connaît pas. Vous voyez, je crois qu'il faut dans cette fête de l'ascension tenir comme leçon que nous n'avons pas, nous non plus, à rester collés à la présence du Seigneur Jésus dans nos petites maisons. Nous avons besoin de temps en temps d'y revenir, mais la plupart du temps, il nous faut accepter d'aller au large, comme les apôtres sevrés de la présence du Maître. De toute façon, Jésus a assuré, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Il n'y a donc pas à craindre, il est toujours là, mais de manière moins tangible que lorsque nous sommes en petit comité, en train de parler de lui et en train de jouir de sa présence sacramentelle. Il y a un deuxième avantage à l'ascension, un deuxième plus qu'un avantage. Il s'agit en réalité de permettre à notre humanité d'entrer en présence de la Trinité Sainte. C'est extraordinaire ce qui se passe au moment où Jésus monte et siège à la droite de son Père. Jusqu'alors, le ciel était descendu sur terre. Le Fils éternel de Dieu avait condescendu à prendre chair de la petite Vierge de Nazareth. C'était déjà extraordinaire. Mais qui peut le plus, peut le moins. Dieu étant créateur, ne pouvait-il pas venir dans le domaine de ses créatures? L'inverse est beaucoup plus surprenant. L'humanité de Jésus, c'est-à-dire en fait la tête de toute l'humanité rachetée, donc l'humanité en tant que telle, monte au ciel. La terre monte au ciel. Voilà qui est beaucoup plus surprenant encore, beaucoup plus mystérieux, et voilà qui reflète une miséricorde infinie de Dieu. La Trinité Sainte, qui est pur esprit de toute éternité, qui n'a besoin de rien, créée dans une pure magnanimité pour répandre son amour autour d'elle, elle ne se contente pas de cela, elle ramène en son sein et pour toujours une parcelle de créatures, l'humanité sainte de Jésus. Songez qu'à la Trinité, c'est ajouter, si l'on ose dire, l'humanité de Jésus, et singulièrement son corps. Je crois que nous avons là les prémices, je crois, au sens du credo. Ce n'est pas une opinion, c'est une foi profonde qui doit nous habiter. Nous avons là les prémices de ce qui arrivera à chacun d'entre nous. Nous sommes appelés, corps et âme, à monter un jour en présence de la Trinité Sainte. Et nous avons, pour l'instant, un rapport si peu équilibré à notre corps, particulièrement. Soit que nous souffrions, que nous le trouvions trop limité, trop laid, que sais-je encore, trop pesant ce corps-là, soit que, sombrant dans des fautes charnelles, récurrentes, nous en venons à désespérer. Nous aimerions sortir de ce corps comme on sort d'une prison, à la façon dont Platon exhortait les Grecs à espérer qu'un jour, à la mort, enfin, ce corps serait déposé, cette prison, alors que le Seigneur Jésus nous met devant les yeux la destinée incroyable qui attend notre corps. Notre corps est fait pour la gloire, tout autant que notre âme. Nous n'avons pas à désespérer de notre corps. À l'inverse, pour ceux qui seraient tentés de se contenter de leur corps, de se mirer dans la glace et de jouir par tous les moyens possibles de leur corps, il semble, dans le mystère de l'Ascension, qu'on ait une petite mise en garde. La gloire du corps de Jésus monté en présence de la Trinité Sainte n'est acquise que conséquemment à la Passion. Il faut, pour pouvoir accéder en présence de la Trinité, dans son corps et dans son âme, il n'y a pas d'autre moyen, connaître la crucifixion. C'est-à-dire que les convoitises de la chair doivent un jour ou l'autre passer par le tamis de l'ascèse. C'est l'enseignement constant de l'Écriture, c'est l'enseignement constant du magistère de l'Église. Il n'y a pas à envisager que sans aucune ascèse, sans aucun renoncement, sans mortifier notre corps, nous puissions un jour entrer dans la gloire. Vous voyez cet équilibre que permet la méditation de l'Ascension quant à notre corps, ni à se désespérer de lui. Il n'est pas quelque chose de superflu qui vient s'ajouter à notre âme. Nous n'avons pas à sombrer dans une sorte de dualisme malsain. Nous n'avons pas à le mépriser, à le haïr, tout comme nous n'avons pas à l'exalter. Ce corps-là est appelé à entrer dans la gloire. Mes frères, je vous invite à méditer sur ce mystère-là, peut-être 2-3 minutes aujourd'hui. Vraiment, rendons grâce à Dieu pour ce cadeau immense qu'il fait à sa pauvre petite créature qui n'a rien mérité du tout et qui, au contraire, avait mérité, souvenez-vous, de la condamnation du livre de la Genèse. Poussière tu es, tu retourneras à la poussière. Voilà que Dieu, par le sacrifice de son Fils, semble avoir oublié cette condamnation millénaire et y substitue cette autre parole. Le Seigneur dit à mon Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur dit à l'humanité de Jésus et partant à notre humanité, siège à ma droite. Voyez ce qui a été rendu possible par le sacrifice de Jésus. Nous méritions de retourner à la glaise à cause de notre péché. Et voilà que Dieu fit des merveilles pour nous. De cette glaise-là, il fait de l'or dont il entend se parer lui-même. C'est notre corps qui entrera un jour en présence de la Trinité Sainte pour glorifier Dieu et parce que tel est son bon plaisir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.